la critique consiste à réfléchir sur le conditionnement de notre vie intellectuelle. La philosophie nous montre comment l'intelligence, dans sa recherche de la vérité, doit aller le plus loin possible. Et ça rejoint l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière. Mais on sait très bien qu'au plan purement humain, nous n'arrivons jamais à la vérité tout entière. Mais on essaie, et on tend, et toute la philosophie, c'est cette recherche de la vérité. Donc, on est dans une attitude, non pas réflexive, mais de contact direct avec le réel, dans la mesure même où nous pouvons avoir ce contact. On considère que, normalement, quand vous portez un jugement d'existence en disant « ceci existe », vous ne mettez pas ça toujours en doute. Bon, je vous donne l'exemple très simple. Quand vous allez acheter des carottes au marché, vous voyez celle qui vend les carottes, vous ne lui dites pas spontanément « mais est-ce que ces carottes existent ?» Elle vous dirait « vous êtes complètement fou » et vous répondrez « je suis philosophe ». Parce que c'est la philosophie depuis Descartes qui est comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est pas étonnant que ça aboutit à une folie. Pour Descartes, la question première, c'est de savoir est-ce que ça existe ? Alors que dans une philosophie réaliste, on ne revient pas sur ce jugement d'existence, on sait qu'il est fondamental. Vous ne vous posez pas, j'espère, durant la journée, 36 fois la question, est-ce que je suis bien éveillé ? Vous l'êtes peut-être, au point de départ, vous vous êtes réveillé. Et vous avez considéré que vous passiez du domaine du rêve au domaine du réel. Et que votre philosophie ne repose pas sur le rêve, mais sur le réel. L'homme qui existe. Mais nous avons la possibilité, et c'est cette possibilité qui peut devenir tragique, nous avons la possibilité de réfléchir sur notre vie intellectuelle. Nous avons la possibilité de nous arrêter et de dire « je pense, j'aime ». C'est très beau, c'est cette espèce d'auto-lucidité. On est lucide, on a conscience. Mais on a été tellement séduit par cette attitude-là qu'on s'y arrête. Plutôt que de rechercher la vérité, on aime mieux avoir conscience. C'est très curieux, ça. J'ai conscience de penser. Alors, plutôt que de chercher ce que la pensée vous apporte, vous pensez à qui ? Vous pensez à quoi ? Mais dans le cogito, Descartes dit cogito, mais cogito, je cogite, mais quoi, quoi ? Je pense, mais je pense à quoi ? Non, ça lui est bien égal. L'essentiel, c'est qu'il cogite. Et l'essentiel, c'est parce qu'il a conscience de cogiter. Vous voyez ? Ce qui est une qualité, une propriété de notre pensée intellectuelle, nous avons conscience de penser. C'est énorme, parce que je crois que ça c'est le propre justement d'une connaissance intellectuelle. La conscience naît à partir de la connaissance intellectuelle. Nous le verrons au point de vue critique. Spontanément, nous disons ça. Nous avons conscience de penser. Mais la conscience de penser n'est pas la pensée. Qu'est-ce que c'est que la conscience de la pensée ? C'est la manière subjective dont vous vivez votre pensée. Vous avez conscience de penser. Et heureusement que vous avez conscience de penser, parce qu'autrement, votre pensée, vous pourriez aller dans tous les sens. Vous laisseriez prendre comme un gosse quand il pense. Il fait attention à la mouche qui vole et puis il tourne. Il n'y a pas d'unité. Il va comme l'abeille qui prend son miel un peu partout, sans avoir conscience qu'elle prend son miel. Parce que si elle avait conscience qu'elle prendrait son mal, elle volerait moins, de façon agitée comme ça. Très curieux de regarder une abeille qui prend son comme ça, qui pique à droite. C'est l'instinct. C'est pas conscience. J'ai conscience à partir d'intelligence. C'est une qualité de ma connaissance intellectuelle. Et cette qualité, donc quelque chose de second, devient quelque chose de premier. À partir de Descartes, jusqu'à Kant. Et il a fallu Hegel pour détruire Kant et dire que mettre la critique en premier lieu, donc l'attitude réflexive en premier lieu, c'est tuer l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle est faite pour penser à quelqu'un, pour penser quelque chose. Le cogito implique que je cogite quelque chose. Je pense à une personne. J'essaie de la connaître. Tandis que si vous dites cogito, vous ne regardez que l'activité vitale de l'intelligence, avec sa qualité particulière d'être conscient de cela. Et vous vous coupez de la source même qui donne une signification à votre pensée, qui est justement ce que vous connaissez, ce que vous atteignez. Donc, il faut bien comprendre que la critique est toujours seconde. C'est cette attitude réflexive sur mon cheminement intellectuel. Alors, je vous ai dit, premier problème de la critique au point de vue de ma vie intellectuelle, c'est de voir qu'il y a diverses manières d'être intelligent. Il y a diverses manières de penser. Vous ne pensez pas d'une seule façon. Ça, c'est vite dit. Je ne reviens pas là-dessus, on l'avait vu l'année dernière. Et je cherche quel est l'élément. La critique cherche toujours à découvrir la chose élémentaire, première. Dans cette complexité, quel est le noyau central? Et ça, c'est le propre de l'attitude réflexive. L'attitude réflexive, parce qu'on est dans la recherche du comment. Comment ma vie intellectuelle se développe? Dans l'ordre du comment, on cherche le fondement. Comment cette maison tient-elle debout? Je cherche le fondement. Et si le fondement est secoué, toute la maison est secouée. Mais ce n'est pas la recherche du pourquoi, ce n'est pas la recherche de la finalité, c'est la recherche du comment. Et en critique, c'est la recherche du comment. Et donc, dans cette recherche du comment, on recherche ce qu'il y a de fondamental et d'élémentaire. Ce qui est le fondement, le noyau sur lequel tout l'édifice repose. Tout l'édifice de ma pensée. Hein. Regardez aujourd'hui, hein, tous les développements des sciences. C'est énorme. C'est quand vous regardez le nombre de sciences particulières. Je me souviens à Fribourg, il y avait quelqu'un qui était dedans et qui avait fait un tableau. Avec, notons les dates de la naissance de toutes les sciences modernes, multiples. Il y a des sciences qui avortent. Des fois, ça ne va pas très loin. Ça dure quelques années, puis c'est tout. Mais c'est extraordinaire de voir comment la science se particularise tout le temps, tout le temps. Et on est devant un monde étonnant. Il y a quelques grands cheminements, c'est très vrai, quelques grandes avenues. Mais les petites ramifications, les quantités de ramifications. Plus la science se développe, plus elle se particularise. Et donc plus elle se multiplie. Et plus il est important de se demander quel est le fondement de ma pensée intellectuelle. Quel est le fondement de ma pensée scientifique. Donc je ne fais pas une critique des sciences, je fais une critique de la pensée. C'est beaucoup plus radical. On peut faire une critique des sciences. Sur quoi la pensée mathématique repose-t-elle? Quel est le fondement de la pensée mathématique? Y a-t-il des changements dans le développement de la pensée mathématique? Depuis les mathématiques des Égyptiens, cette parole mémorable d'Aristote qu'il ne faut jamais oublier, les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Ça, c'est très important de se rappeler ça. La connaissance spéculative est née de l'Égypte. Pour notre Occident, elle est née à partir des mathématiques. Génétiquement, selon l'ordre génétique, la connaissance première, c'est les mathématiques. C'est ce qui est lié à notre développement génétique. C'est très très important de se rappeler ça. Parce que dès qu'on est fatigué, on revient au premier génétique. C'est comme un enfant, quand il commence à marcher, on fait grande attention qu'il marche bien. Parce qu'autrement, il restera tout le temps avec ce conditionnement. Qu'il parle bien, il restera avec ce conditionnement. Ce qui est premier dans l'ordre génétique conditionne tout le reste. Ne détermine pas, mais conditionne tout le reste. Ça, c'est un grand principe au plan de vue psychologique. Et ça, c'est très vrai, du reste. C'est une constatation constante. Et que dès que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus la possibilité de dépasser votre conditionnement, ce qui arrive la plupart du temps, puisque la plupart du temps, les gens ne pensent pas. Et donc, ils sont dans leur conditionnement. Ils répètent. Ils répètent ou le journal, ou ce qu'ils ont entendu. Ils répètent. Donc ils ne pensent pas. Parce que quand vous répétez, vous ne pensez pas. Et vous êtes dans le conditionnement. Dès que vous êtes fatigué, vous revenez dans votre conditionnement. Et là, vous voyez, le premier dans l'ordre du conditionnement est quand même quelque chose d'extrêmement important. Parce que à ce moment-là, le conditionnement détermine. Et ça, c'est le signe de la fatigue. On n'a plus la finalité. Quand on cherche, on est capable de se dépasser. On est capable de découvrir quelque chose de nouveau grâce à cette recherche de la fin. Et quand on est fatigué, on s'enferme dans son conditionnement. Et on est enfermé dans son conditionnement. Et c'est très important, ça. Même pour une culture, le vieillissement d'une culture, c'est de faire que le conditionnement détermine. Et la jeunesse d'une culture, c'est de faire que c'est la finalité qui détermine. Et vous avez tout le temps là les deux grands critères constants. Et ça, vous pouvez le découvrir dans une pensée, justement grâce à la critique de l'intelligence, ce qu'on va essayer de comprendre. J'ai essayé de comprendre le fondement de toute ma pensée intellectuelle. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre génétique, mon fondement? Je vois donc la multiplicité et je vois que tout repose sur le jugement. Toute science implique des jugements. Toute science implique des hypothèses et les hypothèses se donnent dans un jugement. Même les intuitions se donnent dans un jugement. Donc le jugement apparaît comme ce qu'il y a de principal à toute ma vie intellectuelle, avec des niveaux très différents. Mais toute ma vie intellectuelle est autour du jugement. Je réfléchis maintenant sur le jugement, et je dis, le jugement ne peut pas être premier. En disant ça, je sais des quantités de philosophes ne suivent plus. Parce que pour des quantités de philosophes, l'intuition est dominante. Et l'intuition s'exprime dans un jugement. Ou l'inspiration est dominante, ça s'exprime dans un jugement. Je crois que dans la pensée idéaliste, pas entièrement, pas tous, mais beaucoup, le jugement est premier. L'intuition. Dans une pensée de philosophie réaliste, je vois que le jugement ne peut pas être premier. Donc ce n'est pas l'élément de ma vie intellectuelle. Pourquoi? Parce que le jugement s'exprime toujours d'une façon composée. Le jugement le plus simple, ceci est, ou ceci n'est pas. Pierre est intelligent, Pierre est un imbécile. Ça se dit encore plus facilement. C'est un jugement. Pierre n'est pas intelligent. Je le croyais, mais il n'est pas intelligent. Vous voyez, après un examen, je croyais qu'il était à dire non. Je suis désolé, mais il n'est pas intelligent. J'ai sondé l'intelligence. Pourra peut-être faire quelque chose quand même de lui, mais je sais pas. Oui, le jugement s'exprime toujours d'une façon complexe. Par mode de division, il n'est pas intelligent. Par mode de composition, il est intelligent. Si le jugement s'exprime toujours sous une forme complexe, il n'est donc pas premier. Il y a donc quelque chose d'antérieur au jugement. Deuxièmement, le jugement est affirmatif ou négatif? Si le jugement est affirmatif ou négatif, ça tout le monde le reconnaît. Et tous les philosophes reconnaissent qu'il y a affirmation et négation. Je crois que ça, il n'y a personne qui rejette cette distinction. La distinction viendra, et on y reviendra, entre l'ordre de l'affirmation et la négation. S'il y a affirmation et négation, ça prouve que le jugement n'est pas premier. Parce qu'il y a une divisibilité du jugement. Autrement, il ne serait pas affirmatif et négatif. Si le jugement était simple, ben il serait toujours affirmatif. Y a-t-il la négation en Dieu? Posez-vous la question. Est-ce que Dieu aime de nier? Moi, j'aime de nier. Vous aussi. C'est votre plus grande joie de nier. Parce que quand on nie, on s'exalte. C'est pour ça que les gosses, à partir d'un certain âge, aiment tellement de nier. Vous savez, les psychologues ont déterminé l'âge de la négation. Et l'âge de la négation correspond à découvrir son autonomie. Et les gens qui nient le plus, ce sont les gens qui n'ont pas découvert leur autonomie. Ça, on en prend un gros coup. Quand vous niez spontanément, ça veut dire que vous n'avez pas votre autonomie. Vous n'êtes pas tranquille. Alors vous aimez mieux nier. Dites-vous ça chaque fois que vous niez spontanément. C'est que je cherche mon autonomie. Et je ne l'ai pas encore trouvée. Si j'avais mon autonomie, je serais bien plus accueillant. Tandis que celui qui n'a pas trouvé son autonomie n'est pas accueillant du tout. Il rejette. Il a trop peur d'être influencé. C'est pour ça qu'on nie tellement. On a trop peur d'être influencé. Mais quand on a trop peur d'être influencé, c'est pourquoi on n'a pas découvert son autonomie. Quand on a découvert son autonomie et sa personnalité, on n'a aucune peur d'être influencé. Aucune. On sait où on va. On a découvert sa finalité. On a découvert son orientation. Tandis que celui qui n'a pas découvert, oh alors là, il a trop peur, alors il rejette, instinctivement. Curieux, ça, mais c'est très intéressant psychologiquement à noter ça. Donc, le jugement implique affirmation et négation parce qu'il est divisible. En Dieu, il n'y a que l'affirmation. Dieu affirme tout le temps. C'est du reste merveilleux, ça. La négation est un être de raison. Et c'est moi qui l'invente. Et c'est moi qui l'a fait. C'est pour ça qu'on est si fier de nier. Parce qu'on est en face de quelque chose qui vient de nous. C'est un produit natif de notre intelligence. Alors on aime toujours mieux ce qui vient de nous que ce qui vient d'un autre. Toujours, ça, c'est une propension énorme. Une mère considère toujours que son enfant, c'est le plus beau de tous les enfants. Et quand ils sont deux, c'est encore beaucoup plus beau. C'est toujours comme ça. C'est le propre de la mère de regarder son enfant comme ce qui est le plus beau de tous les enfants. Les autres écoutent. Ils ne sont pas toujours du même avis. Ils écoutent, ils se taisent. C'est normal. Tout ce qui vient de nous, on le considère comme ce qu'il y a de plus séduisant. Or, la négation vient de nous. Et purement de nous. Tandis que l'affirmation, vous coopérez avec un autre. Vous donnez la main. Vous coopérez en affirmant. Quand vous dites ceci est, vous coopérez avec la réalité qui existe. Tandis que quand vous dites ceci n'est pas, vous avez levé les ponts-levis et jeté de la poix. Vous avez levé et vous enfermez. Ça, c'est très très net, on voit ça chez le gosse. La grande personne ne le montre pas, mais au fond, si elle réfléchit un instant, c'est ça. Quand vous niez, c'est votre œuvre propre. Tandis que quand vous affirmez, vous êtes obligé de coopérer. Donc, vous voyez, il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas m'arrêter au jugement. Parce que le jugement s'exprime d'une façon complexe, et que dans le jugement, il y a affirmation et négation. Donc, il y a une divisibilité. S'il y a une divisibilité, il y a donc quelque chose qui est antérieur au jugement, et qui est plus simple que le jugement. C'est ce qu'on appelle l'appréhension. C'est une saisie. L'appréhension. Vous allez tout de suite saisir ça. Et ça, c'est très très important. Donc, quand vous dites et que vous prenez le jugement le plus simple, ceci est. Il y a deux. Il y a le nom et le verbe. C'est complexe. C'est pas simple. Parce que c'est complexe, ça ne peut pas être premier. Et donc, je dois m'acharner intellectuellement, à découvrir qu'est-ce qui est antérieur au jugement. Qu'est-ce qui est antérieur à cette composition pourtant si simple, ceci est. Ceci n'est pas premier. Comprenez bien, dans l'ordre critique, dans l'ordre du conditionnement de ma vie intellectuelle, ceci est peut-être le point de départ de la philosophie. Parce que je ne peux pas commencer ma philosophie autrement par cette coopération avec le réel. Mais ce n'est pas premier dans l'ordre de ma vie intellectuelle. Alors qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est le verbe? Ou est-ce que c'est autre chose? Un troisième. Il y a un, deux, trois. Dans l'ordre de la découverte. Voyez, le nom, Pierre, intelligent, ou est, peu importe. Le verbe est relatif au nom, grammaticalement. Normalement, le verbe est toujours relatif au nom, donc il est second. Il n'est pas premier. Qu'est-ce qui est avant? Avant Pierre, avant intelligent. Avant Pierre et avant exister. Il existe. Qu'est-ce qui est avant? Je dis, il y a l'appréhension. J'appréhende, je saisis, la saisie. Pas l'intuition, hein? Une saisie. Une saisie de notions, de termes simples. Le troisième, c'est un terme simple. Et les termes simples, c'est quoi? Les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments, les 10 catégories, sont des termes simples. Quand vous essayez de saisir blanc, c'est quelque chose de simple, blanc. Vous allez dire, mais alors, c'est l'attribut. Oui, c'est l'attribut, mais ce n'est pas l'attribut saisi relativement au nom, c'est l'attribut saisi pour lui-même. Donc, c'est la forme. C'est la détermination. Et philosophiquement, Aristote va inventer un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, qui est un mot proprement philosophique. Aristote va inventer un mot pour montrer ce qui est saisi en premier lieu comme terme simple. Il dira le totienein, qu'on traduira en latin quod, quid, errat, esse, Ça, c'est la traduction littérale. Quod quid erat esse, quod to, quid ti, en erat einain. Esse. Quod quid erat esse. Et comme c'est un petit peu long, mettez des traits comme ça, ça fait plus moderne. Quod quid erat esse. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est un seul mot. C'est très compliqué. Et pour exprimer ce qu'il y a de plus simple, on prend ce qu'il y a de plus compliqué. Ça, c'est typiquement humain. Parce qu'on veut exprimer ce qu'il y a de plus simple. Et on invente un mot, c'est très compliqué. To, ti, et, enai. 4. Quod, quid, erat, esse. Comme c'est un petit peu trop long, on va simplifier. C'est comme toujours. Alors on dira, quid, ditas. Je le mets ici. Un mot qui a été inventé par les philosophes. Et ça traduit toti eneinain. Et on, comme quiditas, ça ne signifie rien. On dira en français quidité. Et vous le verrez même dans le langage de Sartre, d'Aristote à Sartre. Quidité, c'est un mot classique, quidité. Il faut savoir ce que ça veut dire, quidité. Vous voyez, ce mot ne signifie rien. Cherchez dans le dictionnaire. Peut-être que maintenant c'est mis dedans, je crois pas. Je crois pas que l'académie a accepté quidité. Je crois pas. C'est un mot qui signifie rien, quidité. Demandez à la marchande de fleurs, donnez-moi une quidité. Ce sera pas du tout ce que ça veut dire, quidité. Et vous non plus, vous savez pas ce que vous avez dire. Sauf si vous avez déjà fait un peu d'Aristote. Alors, vous savez, il faut revenir au premier moment d'Aristote. Toti eneinain. Qu'est-ce que c'est? Il faut décomposer. Le to eneinain du tien. Ça, c'est des formules aristotéliciennes très curieuses. L'être, le to eneinain. L'exister du tien. Le tien, c'est quoi? Ça correspond au ti esti. Le ti esti, on sait très bien ce que c'est. Le ti esti, c'est qu'est-ce? Qu'est-ce? L'interrogation. Les Grecs modernes ont supprimé esti et dit ti ti ti. Quand vous êtes en face des Grecs curieux, c'est amusant, du reste, à voir ça. Elle dit ti, ti, ti. Elle dit ti. Qu'est-ce? Ils interrogent. Qu'est-ce? Je me souviens, c'était très curieux. Première fois que j'étais à Athènes, ça m'a beaucoup intéressé. Comme j'étais en blanc, ils les intéressaient, ils allaient regarder ça. Et alors, ils regardaient, ils faisaient le signe, tu n'as pas de bague. Hein, vous voyez ça pour les papes. Hein. Les papas, tu n'as pas de bague? Je disais non, pas de bague. Ti, ti, ti. Le ti esti, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Interrogation, qu'est-ce? Et alors, à la place de esti, c'est le n, l'aoriste. Donc, qu'est-ce qui demeure? C'est très beau du reste. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui est dans l'être? Du tiennain. L'être de ce qui demeure. Qu'est-ce qui demeure en vous? Quelle est votre quidité? Homme. Oui, homme. Qu'est-ce qui demeure en vous? C'est l'homme. On peut enlever des quantités de choses, on peut vous enlever un bras, la tête c'est plus difficile, mais on peut enlever pas mal de choses, et il reste l'homme. C'est la chose qui demeure. L'homme, depuis le premier moment de la conception jusqu'à la mort, c'est l'homme, le tienne, ce qui demeure, l'être à ce qui demeure. C'est ça qu'on appellera la quidité. Et saint Thomas dira quidité égale essence. C'est-à-dire ce qui demeure et qui est essentiel. égale nature. C'est Saint Thomas qui dit ça, dans le De Essentia. Égale essence, égale nature. En réalité, il faut faire un petit peu attention. Saint Thomas a le droit de dire ça, je comprends très bien. Mais en réalité, il faut bien comprendre l'origine de ce mot. C'est l'intelligence qui interroge. Ti esti. Qu'est-ce? Qu'est-ce qui demeure dans la réalité? Donc la quidité, c'est ce qui est le plus intelligible dans une réalité. C'est ce que l'intelligence cherche en premier lieu à connaître. Et tant qu'elle n'a pas atteint la quidité de la réalité, elle n'a pas atteint ce qui demeure. Donc, vous voyez, c'est la réalité face à l'intelligence qui interroge. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose qu'unité essence. L'essence est face à l'exister. La nature est face au devenir, et la quidité est face à une intelligence qui interroge, qui veut connaître. Je veux connaître ce qu'il y a de fondamental dans la réalité, ce qu'il y a d'essentiel dans la réalité, c'est sa quidité. C'est toujours en face d'une intelligence qui interroge que je découvre la quidité. Je veux savoir en vous ce qu'il y a d'essentiel. Je veux savoir en vous ce qui demeure. Ce qui, en quelque sorte, est votre structure, comme on dit aujourd'hui. La structure, le structuralisme, hein? Chercher ce qu'il y a de tout à fait de fondamental et de premier. Et je ne peux pas aller au-delà. La quidité, c'est tout à fait ce qui est premier. Aristote le définira ça d'une façon très très nette dans la métaphysique au livre Zêta, au chapitre 4, où Saint Aristote montre que la quidité, c'est ce qu'est une chose en premier lieu. Donc c'est vraiment le noyau fondamental de la chose. Eh bien, avant le jugement, il y a la saisie quiditative de la réalité. Je saisis les déterminations fondamentales de la réalité. C'est ça que l'intelligence cherche à saisir en premier lieu. Et ça définit donc l'appréhension. L'appréhension, c'est donc l'opération première de l'intelligence face au réel, qui saisit dans le réel ce qu'il y a de premier, les déterminations premières, donc la quidité. Et c'est pour ça que les 10 prédicaments, les 10 catégories, donnent les 10 quidités de l'homme. C'est très curieux. Et c'est de l'ordre de l'appréhension. Il n'y a pas de jugement. C'est de l'ordre de l'appréhension. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais vous comprenez qu'au point de vue critique, c'est extrêmement important de comprendre que, au-delà du jugement, il y a la saisie quiditative de la réalité. Les saisies diverses de la quidité. Et ce numéro 3, au point de vue génétique, dans l'ordre de la critique, ce numéro 3 est le numéro 1. C'est évident que c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans toute ma connaissance, l'appréhension. Il faut ensuite, une fois que j'ai dépassé le jugement et que j'ai vu l'appréhension, et que je vois que l'appréhension, c'est le lieu de l'abstraction, c'est aussi très important de se rappeler ça. Mon intelligence connaît en abstrayant. Mon intelligence n'est pas le décalque de la réalité, contrairement à ce que certains disent. Garaudy. Quand il fait la critique de l'idéologie marxiste, il dit que l'intelligence, c'est un miroir qui reflète la réalité. Vous avez tous vu, quand on va à Paray-le-Monial, hein, et qu'on passe le petit ruisseau-là, et qu'on voit la basilique se reflétant dedans. Je prends ça parce que ça reste dans notre image. Hein. C'est beau, ça. Et là, vous voyez, Garaudy dit que l'intelligence, c'est le reflet du réel. C'est très faux. Votre intelligence n'est pas le miroir du réel. Votre intelligence, quand elle saisit quelque chose, elle le transforme. C'est le phénomène de l'abstraction. Vous ne pouvez pas connaître sans abstraire. Oui, tandis que dans l'idéologie marxiste, on oublie l'abstraction. C'est pour ça que la dialectique exprime le réel. Il n'y a plus de distinction entre connaître, la connaissance et la réalité. Parce que tout simplement, on considère que l'intelligence, c'est le miroir du réel. C'est pour ça que c'est très important de voir que ce premier moment de la vie intellectuelle implique une abstraction. Dès que vous voyez ça, vous ne pouvez plus accepter la pensée dialectique. Et ceci, nous le constatons, il suffit de réfléchir un instant sur ce premier noyau que je saisis de la réalité. Je saisis la réalité toujours d'une façon abstraite. Blanc. Le blanc. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans ma pensée. Ce qui existe, c'est le blanc du mur. Et voyez bien, c'est du côté de l'attribut que je saisis l'acuité. C'est pas premièrement du côté du nom. Le nom seul existe. Quand j'ai dit Pierre est intelligent, l'intelligence existe en Pierre. Elle n'existe pas en soi. Quand je dis le blanc du mur, le blanc n'existe pas en soi, c'est le blanc du mur. Et c'est le mur qui existe, c'est le nom qui existe. L'exister est du côté du nom, au sens fort. Et le verbe exprime, alors vous allez me dire oui, mais dans le jugement d'existence, même dans le jugement d'existence, je montre que « est » existe dans le « ceci ». C'est le « ceci » qui existe, c'est pas « est ». Vous n'avez jamais vu « est » tout seul. Sauf quand vous entrez en métaphysique et vous posez la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Mais vous savez que c'est une interrogation. Et que ce n'est pas le réel. Vous n'avez jamais touché l'être. Vous seriez électrocuté. Ça vient de secousse. Vous n'avez jamais touché l'être. Seule l'intelligence découvre. Et elle découvre en abstrayant. Donc, l'appréhension, c'est le lieu premier de l'abstraction. Ce n'est pas le seul lieu. Mais c'est très important de comprendre que c'est le premier lieu. Je suis passé de l'affirmation à l'appréhension. Je suis passé du jugement à l'appréhension. Maintenant, je retourne de l'appréhension au jugement. Il faut l'aller-retour. On connaît bien une chose que quand on fait l'aller-retour, tant qu'on n'a pas fait l'aller-retour, on n'a qu'un aspect. Vous savez bien. On devrait toujours voyager, faire un itinéraire, puis on revient. Ordinairement, on fait la boucle inverse. On ne connaît pas bien. Parce qu'on a une perspective, surtout si on va très vite. On a une perspective et l'autre perspective, on ne l'a pas. Alors, une fois qu'on a dépassé le jugement, qu'on a saisi l'appréhension, on revient de l'appréhension au jugement. Parce qu'on constate tout de suite, quand je compare l'appréhension et le jugement, je vois tout de suite que le jugement est la seule opération parfaite. L'appréhension, c'est élémentaire. Et vous avez cette constatation que vous devez faire tout de suite, que l'appréhension n'existe jamais sans jugement. C'est à travers le jugement que vous saisissez l'appréhension. Vous n'avez jamais vu une appréhension à l'état pur. C'est toujours à l'égard d'un jugement. Et donc, l'appréhension, c'est un élément de ma vie intellectuelle. Et cet élément ne s'exerce, n'existe que dans le jugement. Donc je ne peux pas rester à l'appréhension. Et je reviens au jugement. Comment expliquer le jugement à partir de l'appréhension? Puisque je pars de l'appréhension et je reviens au jugement. Comment expliquer la saisie quiditative de blanc pour dire le blanc du mur? Alors, premièrement, je dois affirmer, et ceci, ça me semble très important, je dois affirmer que le jugement n'est pas une synthèse d'appréhension, contrairement à ce que dit Occam. Et nous savons qu'Occam, c'est un grand tournant, avant Descartes, 14e siècle. Et Occam dit que le jugement, c'est une synthèse d'appréhension. Vous voyez, c'est comme si j'avais la saisie de blanc, la saisie du mur, et je dis le mur est blanc. Or, mur n'est jamais saisi par l'appréhension, sauf si vous essayez de saisir qu'est-ce que c'est que le mur, la forme du mur, c'est une forme artificielle. Voilà ce que vous dites. Et la forme artificielle n'est pas première. Donc la quiddité d'une forme artificielle, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la quiddité d'une forme artificielle? C'est une forme dans une matière. Donc c'est bien le blanc du mur. Et donc vous n'avez pas la quiddité du mur. C'est très curieux ça. Vous voyez tout de suite qu'une œuvre artistique doit se décomposer pour saisir la quiddité. Vous n'avez pas la quiddité du mur. Parce que la quiddité est quelque chose de simple. Et le mur est composé. Il est composé de briques. Il est composé de pierres. Et vous les avez liées ensemble. Donc vous n'avez pas la quiddité du mur. Vous ne pouvez pas être premier. Le mur n'est pas premier. La pierre, faudra voir. Mais voyez, ce qu'il faut saisir, c'est que le jugement n'est pas la synthèse des appréhensions.